Il est 17h30 en temps universel, 19h30 ici à Paris.
Le débat du jour. Diane Berger.
Quasiment un quart de siècle, c'est la durée du règne des socialistes à la tête de la capitale française. Mais à l'approche des prochaines élections municipales, au printemps 2026, la classe politique s'agite. Pour la mairie du Paris, une récente étude Elab donne favorite Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture venue de la droite. Les électeurs ont-ils changé de bord politique? Les dernières évolutions de la population parisienne vont-elles provoquer l'échec de la gauche? Et de quelle gauche parle-t-on d'ailleurs quand on parle de la gauche à Paris? Paris est-elle encore une ville de gauche? C'est la question qui va nous occuper dans la demi-heure qui vient. Bonsoir Yann Brossat.
Bonsoir.
Yann Brossat, vous êtes sénateur communiste, conseiller de Paris depuis 2008. Vous avez été l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge du logement et vous êtes vous-même candidat pour le PCF au municipal de 2026. Vous avez aussi écrit, on le précise, Airbnb, la ville ubérisée et puis le co-écrit avec Jacques Baudrier, Paris n'est pas à vendre. Nous sommes aussi en ligne avec Martial Foucault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, professeur des universités à Sciences Po Paris, chercheur au CEVIPOF, Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Vous avez aussi publié hier, pour le CEVIPOF, une enquête avec l'Association des maires de France au sujet de ce que les Français pensent de leurs élus. Et puis nous sommes aussi en studio avec le chef adjoint du service politique de RFI. Bonsoir Aurélien Devernois.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous.
Voilà, tous ensemble, nous allons réfléchir à cette question. Paris est-elle encore une ville de gauche? Et je vais me tourner d'abord vers vous, Yann Brossat. Vous êtes nombreux à gauche sur la ligne de départ pour les prochaines municipales. Emmanuel Grégoire a été désigné en début de semaine par le PS. Les écologistes ont choisi David Belliard. La France Insoumise prépare aussi une candidature. Le nom de Sofia Chikirou revient régulièrement. Et en même temps, en face, on voit Rachida Dati donner favorite avec, selon les configurations testées, entre 28 et 34% des intentions de vote. Est-ce que la bataille interne de la gauche, elle n'est pas en train de vous faire perdre à tous du temps?
En tout cas,
Yann Brossat, on vous a perdu? Yann Brossat, est-ce que vous nous entendez?
À mes yeux, et à mes yeux, ce rassemblement doit intervenir dès le premier tour des élections municipales, surtout qu'on connaît le contexte. On a à l'échelle internationale une offensive réactionnaire, on a à l'échelle du pays une montée de l'extrême droite, et dans un contexte comme celui-là, je pense que la gauche parisienne n'a pas droit à l'erreur. On a besoin de se rassembler, on a besoin de s'unir, d'autant que, vous l'avez dit, nous gouvernons cette ville ensemble depuis maintenant un quart de siècle, et donc nous devons continuer ensemble. Donc moi, ce que je souhaite, bien sûr, c'est l'union pour que Paris soit plus que jamais un pôle de résistance à l'extrême droite.
Et justement, pourquoi est-ce que vous partez dans ce cas-là tous séparés, alors que vous travaillez déjà quasiment tous avec Anne Hidalgo, avec la mairie de Paris? Est-ce que c'est une peur d'avoir l'étiquette successeur d'Anne Hidalgo trop directement sur la campagne?
Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de liste déposée. Nous sommes à 8 mois de l'élection municipale. Ma conviction, c'est qu'il y aura une liste d'union, parti communiste, parti socialiste, écologiste, et que nous partirons ensemble au premier tour des élections municipales. D'ailleurs, j'ai écrit hier un courrier à David Belliard, qui est le chef de file des écologistes, à Emmanuel Grégoire, qui est désormais chef de file des socialistes, pour que nous puissions nous retrouver dès la semaine prochaine et construire ensemble cette union. Donc bien sûr, il y a des candidats aujourd'hui différents, c'est bien normal, des ambitions qui s'expriment, mais on a une obligation de se présenter unis devant les électeurs. On gouverne Paris ensemble, donc on doit pouvoir se présenter ensemble au premier tour de ces élections municipales, surtout une fois de plus dans le contexte qu'on connaît, avec une menace de basculement à droite, pas n'importe quelle droite, Madame Dati dont on connaît les caractéristiques, et donc on a besoin de s'unir.
Et justement, cette avance actuelle de Rachida Dati dans les premières études, alors même si, c'est vrai, vous avez dit, l'élection est dans 8 mois, on a encore du temps, mais l'avance que l'on donne en ce moment à Rachida Dati, est-ce que c'est juste lié à votre morcellement, ou est-ce qu'il y a aussi un essoufflement de la gauche, des gauches à Paris?
Non, vous savez, quand on regarde les dernières élections législatives, par exemple, 2/3 des circonscriptions parisiennes sont issues des rangs du Nouveau Front Populaire. Donc, il y a une population parisienne qui rejette l'extrême droite, qui rejette les dérives réactionnaires qu'on connaît à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Paris est une ville qui est profondément animée par des valeurs progressistes. Le tout, c'est d'avoir une offre politique à ces élections municipales qui soit unie pour incarner ce refus de l'extrême droite et de la réaction. Donc moi, je suis convaincu que nous pouvons gagner. Il y a une menace qui est là, c'est celle de Madame Dati, une droite qui d'ailleurs flirte de plus en plus avec l'extrême droite. Mais face à ça, si nous sommes unis, nous pouvons y arriver, j'en suis persuadé.
Martial Foucault, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Rachida Dati représente une menace pour la gauche parisienne, mais une menace qui peut être surmontée, qui est encore surmontable en tout cas?
Mais disons qu'il y a plusieurs éléments quand même sur ce futur scrutin à Paris. Bon, oui. Tout d'abord, je crois qu'il est important de savoir si la fameuse loi PLM Paris-Lyon-Marseille sera adoptée par le Parlement.
Alors, parce qu'elle entraînerait... Pour les auditeurs, voilà, c'est une loi qui va changer profondément. Enfin, si elle est adoptée, elle va profondément changer le mode de scrutin.
Alors, profondément, je ne sais pas, mais elle va modifier le mode de scrutin, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le principe de conseillers délégués qui composeront le conseil municipal de Paris, c'est-à-dire que le citoyen parisien, lorsqu'il déposera un bulletin de vote, il déposera directement pour la future configuration politique. Et ça, je crois que ça peut faire une différence. On ne sait pas véritablement, mais peut-être que Yann Brossat a plus d'éléments sur ce sujet, parce que je crois qu'il est très difficile de savoir si à Paris, la gauche serait bénéficiaire ou handicapée par cette réforme. Moi, il me semble que au fond, le vrai sujet, c'est pour répondre à votre question, et vous avez cité ce sondage Elabe. Alors, il faut toujours se méfier quand même des sondages à 8 mois d'un scrutin. Je crois que ça a été rappelé, les configurations ne sont pas connues. L'offre politique réelle, on ne la connaît pas. Et ça joue dans le jugement des électeurs pour s'exprimer sur des programmes. Ensuite, la capacité de Rachida Dati d'être une menace pour la gauche. Je crois que peut-être trop de personnes se sont concentrées sur ce sondage et les résultats du premier tour. Quand on regarde attentivement les dynamiques au second tour, on voit que Rachida Dati a peut-être moins de réserves de voix qu'une gauche désunie au premier tour pourrait disposer au second tour. Mmh. Et je crois que tout l'enjeu sur cette mécanique ou dynamique électorale est importante. Et plus il y aura effectivement de candidatures à droite ou à gauche, et plus la dynamique de second tour peut être amoindrie en quelque sorte. Et puis j'ajoute un deuxième point important. Une élection, c'est quand même une offre et une demande. Et je crois qu'il faut aussi porter une attention très très grande sur la demande des citoyens parisiens vis-à-vis des différentes formations politiques en termes d'enjeux de politique, pas simplement nationale mais aussi locale. C'est une élection municipale, on a tendance parfois à croire qu'à Paris il n'y a pas de politique publique municipale, il y a des politiques publiques municipales et certains de ces enjeux, bien sûr l'enjeu environnemental mais aussi les questions du logement seront à mon sens, et aussi de la sécurité peut-être ou de la tranquillité publique seront au cœur de cette campagne.
Oui, alors il y a effectivement des enjeux très locaux qui peuvent ressurgir, qui vont nécessairement ressurgir. On a aussi vu sur ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup, presque une forme de Hidalgo bashing sur les réseaux sociaux comme dans l'opinion médiatique. Il y a eu tout un mouvement Saccage Paris sur les réseaux sociaux qui attribuait toute poubelle sur la voie publique, mais aussi d'autres problèmes plus concrets à Anne Hidalgo. Il y a aussi un rejet d'une partie des automobilistes qui sont assez déçus de la politique de la mairie de Paris. Yann Brossat, est-ce que vous avez peur que ce soit quelque chose qui puisse vous déstabiliser? Ou pour vous, c'est une minorité qui juste parle très fort?
Vous savez, ce bashing contre la gauche existait déjà quand Bertrand Delanoë était maire, et ce bashing contre Anne Hidalgo existait déjà en 2020, et elle a été très largement réélue à l'occasion des dernières élections municipales. Si on s'était fié à un certain nombre de réactions, si on s'était fié au sondage, Nathalie Kosciusko-Morizet aurait été élue maire de Paris en 2014 et Benjamin Griveaux aurait été élu maire de Paris en 2020. Et comme vous le savez, ça n'est pas tout à fait l'issue qui a eu lieu. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des contestations, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons des Parisiens qui, dans leur grande majorité, sont profondément attachés à une politique de réduction de la place de la voiture. Des Parisiens qui l'ont exprimé à de nombreuses reprises sont aussi attachés au développement du logement social, à l'encadrement des loyers, autant de politiques que nous avons mises en œuvre et à laquelle la droite s'est opposée d'une manière extrêmement virulente. Et je ne vois pas aujourd'hui de changement de logiciel du côté de la droite, encore moins du côté de Madame Dati, qui, il y a encore quelques semaines, disait qu'elle voulait faire revenir des voitures sur les voies sur berge, alors même que la piétonnisation des voies sur berge est aujourd'hui très, très largement plébiscité par les Parisiens. Donc je pense qu'on a surtout une droite qui est à côté de la plaque par rapport à la demande de la majorité des Parisiens. Je ne dis pas qu'il y a une minorité qui conteste ça et qui n'existe pas, mais en tout cas, la majorité des Parisiens veut l'écologie, la justice sociale, et donc la politique que nous avons menée a été soutenue par eux, sinon ils n'auraient pas voté pour nous à 4 reprises.
Aurélien de Vernois, est-ce que vous êtes d'accord, je vous ai vu réagir, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la gauche aurait une assise, un soutien quand même assez puissant de la part des Parisiens ?
Je pense que Paris, parmi les grandes villes françaises, est certainement pas la grande ville la plus à gauche. Mmh. On l'a vu notamment à l'élection présidentielle il y a trois ans. Les scores, par exemple, qu'ont pu faire la gauche réunie dans Paris étaient bien inférieurs aux scores réunis, par exemple, à Toulouse, à Lille ou à Strasbourg. Donc, il y a peut-être un réservoir de voix moins important au départ. Oui. Pour autant, si on prend la ville de Toulouse, rien ne dit qu'aux prochaines municipales, Toulouse, qui est dirigée par la droite, va basculer à gauche, alors que lors de la plupart des derniers scrutins nationaux, la gauche était très largement en tête. Donc, en effet, il y a des logiques locales qui sont très fortes. Est-ce que aujourd'hui on arrive au bout du système socialiste à la tête de Paris, qui dure depuis 25 ans ? C'est une possibilité. Il y a des choses qui se sont exprimées de manière plus ou moins violente ces dernières années à l'encontre d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a été beaucoup visée à titre personnel, mais il y a aussi peut-être dans certaines zones de Paris, ce qu'on appelle un peu les swing states parisiens, les swing arrondissements, des hésitations, et c'est d'ailleurs ce qui inquiète beaucoup, notamment les socialistes et la majorité actuelle, le 12e arrondissement, peut-être le 17e qu'il va falloir conquérir, etc. Donc il y a vraiment des enjeux très spécifiques qui ne permettent pas de dire que Paris n'est plus à gauche ou les davantage. En revanche, ce qui est délicat aujourd'hui, c'est comment finalement continuer de bâtir sur le bilan des années de Lanoë Hidalgo. Ça, c'est peut-être le plus grand défi aujourd'hui de la gauche qui va être plus ou moins réunie lors de ces élections.
Et Yann Brossa, justement, est-ce qu'il faut, pour la gauche, selon vous, non seulement réussir à s'unir, on a commencé à bien l'évoquer, mais redonner un souffle, redonner des objectifs plus ambitieux que ce qui a été fixé récemment ?
Ah oui, très certainement.
Dans quel domaine ?
Pas parce que nous nous serions trompés, mais parce que la réalité nous y pousse tous les jours. Quand on voit, par exemple, les températures qu'il a fait hier dans Paris, il a fait 40 degrés. On voit bien qu'avec le changement climatique, une ville comme Paris risque de devenir purement et simplement invivable. Nous avons commencé un certain nombre de transformations en végétalisant des rues, en créant des forêts urbaines, y compris d'ailleurs sur la place de l'Hôtel de Ville. Mais par exemple, cette mutation écologique de Paris, il va falloir l'accélérer énormément dans les années qui viennent, parce que sinon, cette ville sera tout simplement invivable. Donc, la survie des Parisiens, elle dépend aussi de notre capacité à mettre en œuvre des politiques écolo extrêmement puissantes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la droite est à côté de la plaque, parce que dans un contexte comme celui-là, avec un changement climatique qui est désormais perceptible par tout le monde, aller expliquer aux Parisiens qu'on va remettre des voitures partout, qu'on va arrêter de végétaliser les rues, c'est tout simplement inaudible. Donc oui, moi je pense qu'il faut être extrêmement, extrêmement offensif et que cette politique-là, elle ne doit pas être ralentie, elle ne doit pas être stoppée, elle doit être au contraire puissamment accélérée.
Et vous avez utilisé le terme de survie des Parisiens, alors certes face au dérèglement climatique, et aussi une autre question qui est liée, c'est le fait que beaucoup de Parisiens quittent Paris, notamment on voit des profils de familles qui doivent partir en petite couronne, voire plus loin, car l'accès à l'immobilier devient de plus en plus difficile, aussi bien sur le marché locatif que sur le marché de l'achat. Les logements sont trop petits, trop chers. Martial Foucault, est-ce que ces changements démographiques dans la ville de Paris, cette baisse du nombre de familles notamment, cette baisse du nombre de classes populaires qui se retrouvent un peu expulsées, parfois en tout cas poussées en dehors des limites de la ville. Martial Foucault, est-ce que cela, ça peut avoir un impact à terme sur l'assise que les socialistes ont en ce moment ?
Je dirais que c'est pas tant le changement démographique que la nouvelle sociologie des résidents et inscrits sur liste électorale à Paris qui peut faire la différence. Moi, je vois trois points importants et je rejoins ce qu'a dit Yann Brosset. Je crois que c'est très important que finalement sur les questions, notamment de transition écologique, oui. Et on le voit dans les enquêtes, il n'y a pas une majorité de Parisiens qui aspire de façon nostalgique à un temps ancien où toutes les transformations seraient remises en cause. Alors, c'est un mouvement qui est parfois heurté, mais ça prend du temps et je ne vois pas un mouvement visant à faire marche arrière. En revanche, sur la question du logement, cette transformation de la composition sociologique des habitants à Paris fait du logement, de mon point de vue, un sujet important. Et moi, j'ai eu l'occasion, il y a fort longtemps, de travailler sur ce qui aujourd'hui permettait de comprendre les divisions ville de gauche, ville de droite. Oui. Et je remarquais qu'il y avait une certaine forme un peu de standardisation pour les grandes villes où tous les maires de gauche ou de droite se rejoignent sur plus de services publics, de proximité, la petite enfance, les écoles, l'aménagement, l'attractivité économique. Mais il y a un domaine qui reste pour moi un vrai clivage entre gouvernance à gauche et à droite, c'est le logement. Et d'une certaine manière, le logement peut faire une différence dans les urnes, en fonction de ce qui est offert ou la lecture que feront les citoyens du bilan en termes de logement. Et pas simplement le logement social, parce que, vous l'avez dit, il y a un vrai sujet d'accessibilité à Paris. Alors, on dit souvent, bien sûr, les loyers sont beaucoup plus chers, l'accès à la propriété est quasiment impossible pour les primo-accédants moins de 40 ans compte tenu des revenus salariaux. Mais cette difficulté, pour moi, elle est tout à fait, non pas appréhendable par la puissance publique locale, mais c'est un chantier sur lequel, effectivement, il y a une demande, il y a une vraie demande. Et je crois que, je ne dirais pas que l'élection municipale à Paris va se jouer que sur la question du logement, mais on aurait tort de penser que si l'offre politique n'appréhende pas, ne propose pas peut-être une petite révolution sur les questions du logement avec les instruments parfois très compliqués parce que c'est un monde très complexe, eh bien cette offre en matière de logement peut effectivement garantir non pas le retour des Parisiens à Paris, mais éviter cet exode dans la première ou deuxième couronne.
RFI, le débat du jour.
Diane Berger.
Il est 19h47 à Paris. Paris est-elle encore une ville de gauche? C'est la question qui nous occupe ce soir dans le débat du jour avec nos invités Yann Brossat, sénateur communiste, Martial Foucault de Sciences Po Paris et Aurélien Devernois du service politique de RFI. Yann Brossat, on a commencé à l'évoquer. Le logement, c'est quand même un sujet qui est encore très épineux à Paris. Vous qui avez été en charge justement à la mairie des questions de logement, est-ce que c'est pas là un échec justement de la gauche, en tout cas de la coalition des gauches qui était au pouvoir jusque-là ?
Certainement pas. Et je pense que si Paris reste malgré tout une ville mixte socialement, beaucoup plus mixte que d'autres grandes métropoles internationales dans le monde, c'est précisément parce qu'il y a une municipalité de gauche qui a mené une politique du logement très active. Je vous rappelle quand même que Paris, en 2001, quand Bertrand Delanoë est élu, c'est 13% de logements sociaux. Paris, aujourd'hui, c'est 25% de logements sociaux. Combien de grandes métropoles du niveau de Paris disposent de 25% de logements sociaux? Très peu. Et c'est ce qui permet qu'on ait encore des infirmières, des assistantes maternelles, des caissières, des policiers, des instituts qui vivent dans une ville comme Paris. Cela dit, là où nous avons une vraie difficulté, c'est sur le parc privé. Et c'est notamment sur ce niveau des loyers dans le parc privé qui est effectivement trop élevé. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour mettre en place l'encadrement des loyers, c'est-à-dire considérer qu'on n'a pas le droit de dépasser un certain niveau de loyer quand on est propriétaire. Or, l'élection municipale va être animée par ce débat puisque, en principe, l'encadrement des loyers que nous avons mis en œuvre depuis 2019 s'arrête en novembre 2026. Donc, à l'occasion des élections municipales, nous aurons la possibilité de poser cette question aux Parisiens. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue à encadrer les loyers ou est-ce que vous souhaitez, au contraire, libéraliser totalement le niveau des loyers, ce qui se traduira inévitablement par une explosion du niveau des loyers payés par les Parisiens? Il se trouve, par exemple, que Mme Dati milite pour la suppression de l'encadrement des loyers. Donc, à l'occasion des élections municipales, les Parisiens pourront, par exemple, se prononcer sur cette question dans une ville qui, je le rappelle, est une ville majoritairement composée de locataires. Nous avons à Paris une proportion inverse par rapport à la proportion nationale. On a 2/3 de locataires pour 1/3 de propriétaires. C'est l'inverse à l'échelle de la France.
Aurélien de Vernois, vous vouliez réagir?
Oui, parce que c'est vrai que le logement, c'est très important et c'est aussi très important électoralement. Mmh. C'est-à-dire que, comme l'expliquait bien Yann Brossa, aujourd'hui, il y a un souci à Paris, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que les personnes aisées sont propriétaires de leur logement, on va dire l'ouest parisien. Il y a beaucoup, beaucoup de locataires dans le parc social, notamment dans l'est de Paris. Et puis, les autres arrondissements sont un peu plus mixtes. Et là, ça joue aussi sur la question du niveau des loyers et de l'accessibilité au parc social. Et on sait que, par exemple, les habitants du parc social ne sont pas forcément ceux qui ont le plus haut taux de participation. Alors que les propriétaires de l'Ouest parisien, eux, en revanche, ils votent et ils votent beaucoup. On sait qu'en France...
Et à chaque élection, y compris les moins médiatisés.
Exactement, notamment les plus âgés. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour la gauche parisienne d'arriver justement à mobiliser à la fois ces personnes qui ont bénéficié du parc social pour leur dire, rappelez-vous, on a créé ces parcs sociaux pour vous, n'oubliez pas de voter pour nous, et puis de rassurer quelque part la classe moyenne supérieure parisienne en disant, on va continuer de mettre en place des politiques pour vous permettre de toujours habiter à Paris. Et moi, peut-être, ce que je dirais, en effet, il y a eu l'encadrement des loyers depuis 2019, qui a été d'ailleurs très largement combattu dans d'autres villes, mais c'est peut-être arrivé un petit peu tard dans la gestion de la gauche de Paris, puisqu'on sait que l'envolée des prix du mètre carré à Paris date de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et c'est ça qui a rendu très compliqué à la fois la capacité d'achat et la capacité de location. Et arrivé en 2019 avec de l'encadrement des loyers, est arrivé un peu comme un pansement sur une jambe de bois parce que la situation était déjà très dégradée. Et ça, je pense que les électeurs parisiens en ont conscience.
Oui. Et alors, Aurélien de Vernois, vous évoquiez le fait que les électeurs de droite, en tout cas les électeurs les plus promptes à voter à droite, sont ceux qui vont se mobiliser le plus facilement. Il y a aussi à gauche un autre phénomène, c'est qu'on voit, pas à toutes les élections, mais on a vu par exemple à la présidentielle, des électeurs de gauche se mobiliser beaucoup plus pour la France insoumise que pour Anne Hidalgo quand elle était elle-même candidate. Alors forcément, bon, une présidentielle n'est pas une municipale, vous l'avez tous rappelé, mais est-ce que, Martial Foucault, on peut imaginer la gauche parisienne actuelle, plutôt autour du PS, se faire dépasser par encore plus sur sa gauche par LFI?
Alors c'est vrai que à Paris et peut-être dans quelques métropoles, on devrait parler des gauches. Il y a plusieurs gauches qui, oui, effectivement, peut-être elles parviendront à s'unir avant le premier tour, mais dans le cas contraire, oui, et on arrive à le situer géographiquement. Vous avez raison, le grand quart nord-est de Paris, 19e, 20e arrondissement, sont plutôt des bastions de la France insoumise, et on va retrouver une gauche socialiste ou écologiste beaucoup plus forte dans les 11e arrondissement, le 12e, le 4e arrondissement.
Les quartiers qui vont être qualifiés souvent plus bobos, plus éduqués, plus...
Oui, mais en fait, cette logique-là de connaissance, comment sont répartis les votes, de mon point de vue, n'a que peu d'importance par rapport à l'issue du scrutin à Paris, parce que on revient sur ce sujet, c'est quelle est l'offre la plus crédible que se poseront les partis de gauche pour conserver Paris dans une dynamique entre le premier et le deuxième tour. Et ça, je crois que ça, c'est le point essentiel. Et d'ailleurs, pour les électeurs de gauche ou des gauches à Paris, je crois que le pire des scénarios, c'est cette division qui serait trop forte et qui empêcherait précisément la capacité d'être crédible pour un second tour. Et j'ajoute un point parce que vous avez raison de dire, et je confirme, en tout cas dans quelques travaux que j'ai pu mener, que si on était un petit peu cynique, on pourrait même penser que le logement, c'est un instrument qui permet de façonner les électorats. Ouais. Et à Paris, il y a une particularité, c'est que effectivement, le nombre de logements sociaux, ça a été rappelé, a doublé en plus de 20 ans, mais cette augmentation n'a pas nécessairement produit un effet, je dirais, blast d'un mouvement des électeurs vers la gauche. Donc, ce qui veut dire qu'à Paris, si le logement compte, pour moi, c'est aussi il y a une question du cadre de vie, du bien-être vis-à-vis du logement, et que au fond, on peut avoir une augmentation du nombre de logements sociaux. Mais est-ce que c'est un logement subi pour un certain nombre de Parisiens, contrairement à d'autres métropoles où on considère que effectivement être disposé d'un logement social, c'est le début d'une, je dirais, d'une construction, d'une trajectoire de vie ou familiale dans cette métropole. À Paris, on voit que la situation n'est pas totalement rêvée par rapport aux occupants de ces logements sociaux. Mais ça, je dirais que ça dépasse aussi les questions de la ville de Paris. Hein. Et c'est une question du rôle des bailleurs dans l'entretien aujourd'hui du patrimoine dédié à la location.
Je vais aussi redonner la parole à Yann Brossat. Est-ce que justement, c'est des choses qui aussi dépassent, selon vous, le simple cadre municipal? Et est-ce que le combat peut donc être porté uniquement au niveau municipal?
Je pense qu'en réalité, les deux sont très articulés et qu'à un an de l'élection présidentielle, il est bien évident que les enjeux nationaux pèseront aussi sur cette élection municipale, a fortiori, dans une ville qui est une ville capitale. Et une fois de plus, beaucoup de Parisiens animés par des valeurs progressistes se demanderont comment une ville comme Paris, une municipalité comme la municipalité parisienne, peut continuer à les défendre et à les protéger des vents mauvais qui soufflent à l'échelle nationale. Quand on voit les vents de racisme, de xénophobie qu'on voit à l'échelle du pays, qu'on sait qu'une ville comme Paris, c'est un quart de la population qui est née à l'étranger, on voit bien qu'on a un certain nombre de valeurs à défendre si on souhaite que Paris reste cette ville mixte, cette ville de brassage qu'elle est aujourd'hui. Et vous savez, on parlait tout à l'heure du bashing contre la municipalité parisienne. Ce bashing, on sait d'où il vient. Il vient de Bolloré, de ses amis, c'est-à-dire de groupes médiatiques, de grandes fortunes, qui sont animés par des valeurs réactionnaires. Et si Paris les dérange, c'est précisément parce que Paris, c'est tout ce qu'ils détestent. Et donc, moi, je suis convaincu que l'un des enjeux des prochaines élections municipales, c'est de préserver l'identité de Paris, c'est-à-dire cette ville de brassage.
Mais justement, il y a des personnes qui vont vous dire que Paris, aujourd'hui, est un peu vitrifié, y compris sous les mandatures actuelles de gauche. Paris est devenu, parfois, on le caricature un peu comme la ville LVMH, la ville carte postale. Est-ce que là aussi, on n'a pas une politique qui n'était pas si à gauche que ça, finalement?
Je pense que c'est un cliché et que la réalité de la population parisienne ne correspond pas à cette description. Une fois de plus, quand vous avez un quart de la population qui est née à l'étranger, quand vous avez un habitant sur quatre qui vit en logement social, vous avez une ville qui est beaucoup plus mixte socialement que ce qu'on entend parfois ou ce qu'on lit parfois dans un certain nombre d'écrits. Et ça, en tout cas, c'est une ville qui est beaucoup plus mixte que beaucoup de grandes métropoles attractives à l'échelle du monde. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que nous avons besoin effectivement d'une radicalité. Vous savez, je vous prendrai un exemple très simple en matière de logement. On a 3000 logements
qui sont vides. En quelques mots, on va bientôt conclure.
On a 3000 logements qui sont vides depuis plus de 5 ans à Paris. Moi, je pense par exemple que ces 3000 logements devraient faire l'objet d'une procédure d'expropriation pour leur redonner une utilité sociale. Ben voilà l'une des propositions dont on pourra débattre à l'occasion de ces élections municipales.
Et dont vous allez sans doute débattre dans les discussions concernant la possible union des gauches. Merci beaucoup à tous les trois. Yann Brossat, sénateur communiste, candidat pour le PCF au municipal de Paris. Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po Paris, chercheur au CEVIPOF. Et puis merci aussi Aurélien Devernois, journaliste, chef adjoint du service politique de RFI. Dans quelques minutes, ce sera le grand journal international du soir de Christophe Paget, suivi une demi-heure plus tard d'Afrique Soir, première édition, avec vous Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous.
Quel va être le programme alors ce soir?
On fera le point sur la conférence internationale de Séville qui s'est achevée ce jeudi. Effectivement, pendant 4 jours, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, de dirigeants d'institutions financières internationales et des chefs d'entreprise ont planché sur la recherche de solutions pour un meilleur financement du développement durable. Un sommet qui s'est déroulé dans un contexte de baisse générale de l'aide publique au développement, avec notamment la fin officielle de l'USAID, annonce faite cette semaine par les États-Unis, qui d'ailleurs n'ont pas participé à cette conférence internationale. Et puis, nous irons ensuite au Mali, où le GNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, a annoncé mercredi l'instauration de blocus dans les villes où les habitants sont accusés d'avoir collaboré avec l'armée.
Eh bien, merci Merci beaucoup Zéphirin Quadio. On vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure pour la première édition d'Afrique Soir. Merci aussi à Claude Battista dans la régie, Florence Ponce pour la préparation du débat. Ce débat que vous pouvez retrouver en podcast sur l'application RFI Pure Radio, sur notre site www.rfi.fr, comme tous nos reportages, nos émissions. Merci beaucoup d'écouter la radio du monde. Merci d'écouter RFI. Il est bientôt 20h ici à Paris.
RFI.